Petit 1, l'Atelier des médias est une émission de radio traditionnelle et une émission de radio web. Petit 2, c'est aussi un réseau social et une plateforme de partage, de blogging en ligne. L'URL est
http://atelier.rfi.fr.
Petit 3, l'atelier est aussi un atelier qui essaye de fabriquer des projets. Petit 4, son projet le plus réussi s'appelle Mondoblog. Petit 5, Mondoblog est une plateforme de blogueurs qui allie à la fois un média, mondoblog.org, et de la formation. Petit 6, Mondoblog a donné naissance à LibiaBlog en arabe et en Libye, et à ArabLog qui sera lancé officiellement dans un mois. Petit 7, comment faisons-nous tout cela? Eh bien, grâce au talent de Manon, Raphaël, Dilette, Jamel et Simon. Petit 8, que nous préparez-vous? Une plateforme de blogueurs audio inspirée de Mondoblog, alliant médias et formation à l'échelle internationale. Petit 9, c'est pour quand? Nous cherchons des partenaires et des institutions qui ont comme nous envie de changer le monde avec peu de moyens et beaucoup d'envie. Petit 10, comment nous aider? Eh bien, contactez-nous sur
atelier@rfi.fr.
Petit 11, mais pourquoi nous explique-t-il tout cela? Eh bien, car beaucoup de gens me disent qu'ils ne comprennent rien à l'univers de l'atelier des médias et, j'en conviens, nous ne sommes pas toujours très bons pour expliquer ce que nous faisons. Bonjour et bienvenue dans l'Atelier des médias, bienvenue dans Mondoblog, bienvenue dans ArabLog et bienvenue bientôt dans l'Atelier Radio.
L'Atelier des médias, la web émission participative.
RFI.
Ziad Malouf, Simon Decreuze.
Et vous.
Il y a quelques semaines, nous étions légèrement sortis du périmètre direct des médias pour mieux y retourner. Notre invité, le sociologue Bruno Marsloff, venait de consacrer un livre au travail et à la mobilité. Son titre, « Sans bureau fixe » doit parler à beaucoup d'entre vous au nord comme au sud du Sahara. « Sans bureau fixe » est une réflexion sur la manière dont les nouvelles technologies affectent la vie professionnelle. Une réflexion cruciale à en juger par les changements que nous observons tous au quotidien dans nos méthodes et nos logiques de travail. Aujourd'hui, je vous propose de réentendre l'entretien que nous avait accordé Bruno Marsloff. Ce sera après la chronique de Marie-Catherine Beuth. Dans presque une heure, Francis Pisani se demande si le 21e siècle sera chinois. Bonjour Marie-Catherine Beuth.
Bonjour.
Comment ça va?
Ça va très bien.
Tu es partie il y a presque 2 ans aux États-Unis. Pendant 1 an, tu as été Knight Fellow à l'université de Stanford. Depuis 1 an, tu mènes un projet qui avait pour nom de code Newstapes, qui consiste à suivre l'actualité chaque semaine, des faits d'actualité selon 3 tempos, en fonction notamment du temps dont on dispose pour s'informer. Et tu ne nous as pas parlé de ce projet depuis un certain temps. Il est peut-être temps que tu nous donnes des nouvelles de Newstapes.
Absolument. Alors, Newstapes, l'idée était de présenter l'actualité à quelqu'un qui s'informe plutôt occasionnellement. Et la solution apportée était de prendre un sujet majeur d'un jour et de le découper en 3 liens avec 3 longueurs différentes pour progressivement rentrer dans un sujet complexe. Fort de ces expérimentations avec Newstapes, j'ai réfléchi davantage à qu'est-ce que cela signifiait de personnaliser l'information autour du temps. Et un certain nombre de tests qu'on a menés depuis sur des terminaux, notamment mobiles, ont montré que parfois c'était compliqué pour les lecteurs de déterminer combien de temps ils avaient. Oui, dans l'absolu, j'ai envie de passer 10 minutes à lire mon journal en ligne, mais je peux être interrompu par quelque chose, ou 10 minutes, c'est quelque chose de très abstrait. 10 minutes peuvent être un temps très long si je dois suivre l'ensemble de l'actualité, mais 10 minutes peuvent être un temps très court si je couvre un sujet qui m'intéresse beaucoup. C'est pourquoi j'ai réfléchi à une petite évolution de Newstapes sur le mobile qui s'appellera désormais News on Demand, l'information à la demande, et qui cherche à personnaliser l'information autour de l'attention. C'est-à-dire que nous tenons compte du temps qu'a le lecteur, mais aussi du contexte dans lequel il se trouve, et on essaye de qualifier ce temps de manière un petit peu plus abstraite. Au lieu de dire vous avez 1 minute, 5 minutes, 10 minutes, c'est est-ce que vous êtes très pressé et vous voulez un aperçu de l'actualité, est-ce que vous avez une petite pause et vous voulez plonger un petit peu plus en profondeur dans ce sujet.
Et donc, récemment, tu as reçu un financement qui va te permettre de développer cette application de News on Demand, d'information à la demande.
La Fondation Knight a un fonds dédié au développement de prototypes pour le journalisme qui s'appelle le Knight Journalism Prototype Fund et qui donc alloue 35 000 dollars pour développer un projet et tester un certain nombre d'hypothèses pendant 6 mois. J'ai donc jusqu'à fin octobre pour avancer le plus possible sur News on Demand, essayer de voir si mon hypothèse de personnaliser l'information autour de l'attention est juste et aussi de voir quelle serait la bonne présentation, la bonne interface pour représenter de l'information dans des formats différents. Est-ce qu'il faut présenter une liste de petits titres ou de petits liens? Est-ce qu'on peut utiliser uniquement de la photo pour véhiculer une information en 10 secondes à un internaute ou à un mobinaute en l'occurrence? Et quelle interface permet de améliorer la compréhension globale de l'actualité pour l'utilisateur.
Les échéances à venir pour toi, c'est quoi du coup ?
Alors, dans un premier temps, on va mener un certain nombre de tests de manière très simple, avec l'email et sur un site web, pour essayer de comprendre quel est le plus petit dénominateur d'information qui permet de transmettre une information sur l'actualité à un internaute, pour essayer de déterminer quels sont les différents laps d'attention. Est-ce que c'est 3 secondes, 8 secondes, 10 secondes, 1 minute, 10 minutes, et pour voir comment les utilisateurs réagissent à ces différents formats. Une fois qu'on aura déterminé 3 ou 4 profils d'attention, nous allons travailler sur une interface mobile, puis sur le développement de l'application.
Et donc, pour finir, on peut déjà s'inscrire sur ton site si on veut participer à l'élaboration de cette application. L'URL, c'est signup.newsondemand.co.
Exactement.
On retrouvera, bien entendu, un lien vers ce site sur ton blog de l'Atelier des médias. Le site Newstapes continue à fonctionner entre-temps, c'est ça ?
Pour l'instant, il continue de fonctionner et on va voir ce que les utilisateurs nous disent. Est-ce qu'ils veulent qu'on maintienne ou pas le service qui semble être encore assez utile à beaucoup de gens.
Et on peut continuer à te lire sur ton blog du Figaro qui s'appelle tout simplement Étreinte Digitale. À la semaine prochaine, Marie-Catherine.
À la semaine prochaine.
L'Atelier des médias, une web émission participative pour la communauté des nouveaux médias. http://atelier.rfi.fr.
You're in tune to the international sound.
Comment les nouvelles technologies affectent et modifient le travail ? C'est à cette vaste question que notre invité aujourd'hui tente d'apporter des réponses. Il vient de publier un court essai intitulé « Sans bureau fixe ». Il y interroge en particulier la relation entre la mobilité et la vie professionnelle. Une question pressante dans un monde où tout et chacun est de plus en plus nomade et où parallèlement les transports posent de plus en plus de problèmes à nos vies urbanisées. Un monde de mobilité volontaire et de mouvements subis. Deux tendances diamétralement opposées qu'on ne peut comprendre et concilier qu'en les envisageant comme les deux faces d'une même médaille. Bonjour Bruno Marsloff.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, fondateur du cabinet d'études Chronos qui est spécialisé dans la prospective sur les mobilités, la ville, le numérique et le quotidien. C'est ça ?
Exactement.
Vous êtes l'auteur de Sans bureau fixe, un titre qui fait penser à sans domicile fixe et donc à une forme de précarité. Vous expliquez dès les première ligne que cette analogie est assumée.
Absolument, la précarité devient une valeur, qu'on le veuille ou non. On est dans quelque chose qui est assez différent de l'État-providence, de l'entreprise-providence, qui prenait soin de son administré ou de son salarié. Et on est de plus en plus renvoyé à nos propres incertitudes et qu'on doit gouverner. Oui, en effet, on rentre dans un monde de la précarité.
Au point où la précarité est une valeur à vos yeux ?
C'est pas moi qui ai énoncé cette sentence, c'est Jacques Attali il y a déjà assez longtemps dans une tribune qu'il avait produite dans les années 90 pour Le Monde et analysant dans une vision prospective cette évolution qu'il anticipait assez justement, c'est lui qui avait énoncé cette formule d'une précarité comme valeur, mais on la retrouve en tout cas très fortement au sein de la population des jeunes qui n'ont pas du tout le même regard sur leur parcours professionnel à venir que ceux que notre génération pouvait avoir il y a quelques décennies.
Sans bureau fixe, c'est un clin d'œil à la précarité, mais ça n'est pas un livre sur la précarité, en tout cas pas entièrement. On écrit beaucoup sur la manière dont Internet ou le numérique bouleverse les industries culturelles, sur les relations personnelles aussi, la communication, la mobilité, la banque, le commerce. On s'interroge finalement assez peu sur ce que ça change au travail, qui n'est pourtant pas la dernière de nos occupations. Est-ce que vous êtes d'accord avec cet état de fait ?
Il faut regarder le numérique d'abord avec l'œil des usages du quotidien. Et finalement, on va s'apercevoir que dans ce contexte, le numérique s'avère être une solution à un autre problème. Je veux dire par là que l'enjeu, il est le même dans toutes les villes, et avec les mêmes concordances sur les pénibilités liées à la mobilité avec la taille des villes, et quel que soit le continent sur lequel on est, quelle que soit la métropole dans laquelle on est, on se retrouve face à des congestions, des perturbations, et à un allongement progressif du cheminement domicile-travail. Donc, comment réagir à ça? Comment réagir? Très naturellement, un certain nombre de travailleurs se saisissent de ces outils-là. Alors, on le fait avec nos téléphones mobiles, qui vont permettre de relayer des conversations avec des collègues, des fournisseurs, des clients, etc. Et puis, on le fait avec de nouveaux outils. Il y a là ce qu'on appelle le cloud, les nuages, c'est-à-dire, en fait, cette délocalisation très loin dans des informations, des datas, les mails, les fichiers que l'on a. Ils sont délocalisés et on va pouvoir les retrouver où qu'on soit. D'où cette notion, en effet, de nomadisme qui se masque derrière ce sans bureau fixe.
Et vous expliquez que les localisations du travail se diversifient, s'autonomisent, deviennent nomades, deviennent changeantes. D'où cette idée de sans bureau fixe.
En effet, la notion de délocalisation va aussi avec celle de désynchronisation. C'est-à-dire qu'on travaille à la fois en dehors du siège principal du travail, pas de façon permanente, le siège reste le lieu principal du travail, mais on travaille également en dehors des horaires classiques, normés du travail.
Notamment à cause de ces mêmes objets dont vous parlez, où on reçoit en permanence des messages qui peuvent être des messages professionnels, des mails qu'on a la curiosité de lire, qui parfois nécessitent une réponse immédiate, même s'il est 23 heures un samedi soir.
Il y a une porosité absolument phénoménale qui est en train de se passer entre les sphères privées, les sphères personnelles et puis les sphères professionnelles.
On va y revenir d'ailleurs.
Et là, il y a de véritables enjeux. Et cet écran, il est à la fois pour les conversations privées et pour les conversations professionnelles. Et c'est cette dualité qui, tout d'un coup, soulève toute une série de nouvelles questions.
Alors, je l'ai rappelé en introduction, mais finalement, ce que vous expliquez dans le livre, c'est qu'on voit émerger parallèlement donc deux phénomènes, une mobilité qui est choisie, qui est une mobilité extrêmement valorisée, une mobilité positive, celle du mobile, celle du déplacement, celle du fait qu'on peut travailler un petit peu partout grâce au Wi-Fi, et parallèlement, donc, cette mobilité subie, cette mobilité liée aux grèves, liée aux bouchons, liée au transport interminable, et, paradoxe, celle-ci, évidemment, n'est pas valorisée, et on les traite, ou en tout cas on les envisage de manière presque totalement séparée, alors que, de votre point de vue, ce sont deux phénomènes qui sont totalement liés.
Il y a derrière le simplisme de la formulation mobilité subie et mobilité choisie, une réalité qu'on a du mal un petit peu à reconnaître et que pourtant chacun de nous vit. Le déplacement en voiture ou dans un transport public lié à une certaine pénibilité parce qu'il va être long, parce qu'il va être encombré, parce que il va être difficile, fait partie de cette sphère de la mobilité subie. La mobilité choisie, c'est celle qu'on va avoir en rentrant le soir parce que on va aller au cinéma, on va aller chez des amis, on va aller au restaurant, etc. Et puis il y a d'autres mobilités. Mais comment peut-on, et c'est la question que je pose dans ce livre, comment peut-on rétablir un équilibre pour un certain nombre de personnes qui subissent une heure, deux heures, voire trois heures de déplacement liés à leur travail dans la journée? Comment peut-on réduire ça au bénéfice d'une qualité de vie donc qui s'exprime dans la mobilité choisie? Donc c'est cet enjeu que les travailleurs cherchent à résoudre, et c'est cet enjeu sur lequel les opérateurs, les acteurs de la ville et les autorités organisatrices devraient se pencher.
Et vous expliquez aussi que si l'individu est de plus en plus mobile dans son travail, évidemment c'est par souci d'avoir moins de déplacements, ça c'est la première raison, mais il y a une autre raison qui est l'obsolescence à vos yeux de l'univers, du monde du travail. On s'en éloigne volontairement.
Le travail, pendant le siècle dernier, était très dominé. D'ailleurs, le siècle a commencé avec Ford et Taylor. Donc, les théoriciens d'une organisation qui a bouleversé des siècles de définition de la valeur travail. Cette notion productiviste et organisée du travail, celui qu'on a formulé dans le fameux métro boulot dodo, où tout le monde commence à la même heure, termine à la même heure, les mêmes jours, et off s'en va le week-end. Ce travail-là est en train de changer, mais ça masque quelque chose de beaucoup plus fondamental, qui est la transformation même de la valeur du travail, qui est la transformation de la relation de l'individu avec ses commanditaires, qui peuvent être des employeurs, mais qui ne sont plus nécessairement des employeurs, avec, on le voit avec le succès des auto-entrepreneurs, une vague d'indépendance, d'autonomie dans le travail.
De précarisation, on l'a rappelé au début
et
aussi.
Et ça va avec, en effet, une certaine forme de précarisation, mais ça va aussi dire, il faut pas entendre précarité dans son sens uniquement négatif. Ça peut être aussi quelque chose de l'ordre de l'épanouissement. Alors, il y a toujours, en effet, quelque chose de difficile à entendre, parce que précarité est une notion plutôt péjorative, plutôt pénalisante, et on le voit, la jeune génération a plutôt tendance à en voir les dimensions positives, celles de l'autonomie, celles de ce que les anglo-saxons appellent l'empowerment, qu'on va appeler capacitation, enfin mise en capacité d'exprimer ses possibilités de travail. Et c'est là où le travail est en train de se redéfinir.
Il est en train de se redéfinir, mais souvent il est structuré, on va peut-être y revenir, d'une manière qui n'est peut-être plus adaptée à ces réalités. C'est pour cette raison que, comme vous l'expliquez, on s'éloigne d'un univers, d'un contexte qui est de moins en moins pratique, de moins en moins en adéquation avec nos besoins en tant que travailleurs.
Il y a une tension qui est en train de se mettre en place. On recherche aujourd'hui des solutions purement pratiques à cette délocalisation et désynchronisation du travail. Toute une série d'entreprises mettent en place des dispositifs formels, pratiques, qui vont permettre de délocaliser. Ce qu'il faut entendre, c'est que c'est pas simplement une question de solution technique ou pragmatique. C'est, on veut être dans une autre relation dans le travail. On attend d'autres valeurs. On attend d'autres types d'échanges. Au moment où l'Internet devient généralisé, où les formes de communication liées aux réseaux sociaux transforment radicalement les sociabilités et les échanges, ce que nous avons pu mesurer dans des études, c'est que les gens se saisissent avec bonheur, ou en tout cas avec gourmandise, de cette capacité que les réseaux sociaux, que les nouveaux terminaux ouvrent vers de l'échange, de la convivialité. Et tout d'un coup, on s'aperçoit de quelque chose de très étonnant, c'est que la relation qui était confinée aux collègues à collègues devient beaucoup plus ouverte et s'ouvre même sur l'extérieur, puisqu'on va parler de relations de pair à pair. Donc, on voit bien qu'il y a là quelque chose, une ouverture, et il y a une très très forte appétence autour de ça.
Vous appuyez votre démonstration sur une analyse conséquente de la manière dont les gens se déplacent aujourd'hui et du gâchis que ça représente. Et vous ouvrez un chapitre donc sur les transports urbains, sur cette citation d'Alvin Toffler qui date de 1971. Alvin Toffler, c'est un sociologue et un futurologue américain. Je la lis, cette citation. L'une des choses les plus improductives de notre époque est de déplacer chaque matin des millions de personnes vers des zones de travail, puis chaque soir vers leur domicile. Ça, c'est une réalité qu'on vit aujourd'hui et c'est une absurdité qu'on vit d'une manière exacerbée aujourd'hui.
Comment peut-on vivre depuis des décennies avec ces congestions au quotidien en cherchant simplement à rajouter des infrastructures sur des infrastructures pour absorber cette croissance de la demande sans chercher des solutions de rupture?
Et vous avez cette phrase que je trouve géniale dans votre livre, ça c'est une citation de vous: construire plus d'offres pour réduire la congestion revient à relâcher sa ceinture pour prévenir l'obésité.
On voit bien, en tout cas, dans ce champ très précis que j'observe dans le livre, que la croissance de la demande, elle n'est pas voulue. Elle ressort mécaniquement du système qui a été mis en place et que personne ne conteste.
Ce sont des mouvements subis. On est en train de développer l'offre pour une demande qui est subie, qui n'est pas volontaire. Voilà. Les gens n'ont pas envie de passer 2 heures dans les transports chaque jour.
Ça donne la mesure des enjeux et il y a une question qu'on peut se poser. Y a-t-il une fatalité à cette urbanisation, à cette métropolisation?
Et vous proposez des solutions comme la démobilité ou la remobilité. On va en parler juste après une courte pause. À tout de suite.